C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi, avec toujours de vrais morceaux de Finistère dedans. Et aujourd'hui, on s'habille, et on s'habille bien avec un jeune créateur de Hanvec.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui tend ses oreilles vers le Finistère. Le lundi, si possible, on invitera des artistes. Et il y en a dans nos contrées, des artistes de talent qui naissent en Finistère et souvent doivent s'en aller pour continuer à créer. Pourtant, ils et elles restent attachés à leur terre de départ, qui ressurgit dans leur création elle-même. C'est le cas du jeune homme que nous avons rencontré et interviewé cet été. Il a grandi à Hanvec, mais il a dû suivre sa voie à Paris et même en Belgique. Forcément, il est styliste. Et se former, travailler dans la haute couture ou même le prêt-à-porter, c'est plus difficile en Finistère. Et c'est cependant dans notre département qu'il a choisi de présenter sa première collection personnelle. C'était le 26 juillet dernier à l'ancienne abbaye de Landévennec. Un joli cadre avec le soutien du musée, mais aussi de Braise Odyssée, établissement voisin, et de l'association Lin et Chanvre en Bretagne. Car Jules Lemaitet, puisque c'est lui, travaille notamment le lin. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jules, racontez-nous comment, pourquoi vous avez voulu devenir styliste.
Je pense que, on va dire que j'ai commencé mon parcours avec une envie de faire plutôt de l'architecture. J'étais passionné d'histoire et donc architecture du patrimoine par le dessin, les arts plastiques, etc. Et je pense que c'est vraiment au Cercle Celtique du Fou de Broaz Tergoz, porter le costume depuis l'âge de 6 ans, ressentir un peu cette énergie communautaire que peut y avoir à travers le costume et le vêtement breton. Qu'il y a eu cet attrait pour le textile, pour le vêtement, pour la matière, et que l'architecture du bâtiment, du patrimoine, est passée vers une architecture du corps, et donc vers le vêtement. Et puis c'était aussi quelque chose que, si je voulais faire architecte, c'était énormément de budget, énormément de travail, et en fait le vêtement c'était une architecture que je pouvais faire dans ma chambre.
Oui, vous avez vraiment commencé à vous y mettre pour essayer, quoi.
Ouais.
Vers quel âge, à peu près?
Assez tard, au final, parce que j'ai fait une formation qui s'appelle... Enfin, un lycée qui s'appelle Art Appliqué à Vauban, à Brest. Et j'étais vraiment parti en Art Appliqué pour faire de l'architecture, pour me préparer à l'architecture. Et c'est là que j'ai compris, donc vers 14-15 ans, que l'architecture, c'était pas ma tasse de thé, que c'était plutôt le vêtement, que j'avais besoin vraiment de travailler avec mes mains, à travers la matière, d'expérimenter directement.
Et donc, ça y est, vous avez commencé, vous avez pris vous avez créé des vêtements dès le début ou...
Au début, c'est un peu pas dingue, mais...
normal.
Normal, mais j'ai commencé des premiers petits stages à Brest. Et je suis allé ensuite dans une école qui s'appelle Dupéré à Paris.
Alors voilà, il faut nous expliquer ce que c'est comme type d'école. C'est après le bac, c'est comment
ouais,
ça se passe?
C'est ça, c'est une formation qu'on appelle DNMADE, donc Diplôme National des Métiers d'Art et des Arts Appliqués.
Donc très reconnue, hein, bien
très
sûr.
Très reconnue, une des plus grandes écoles publiques, donc éducation nationale de design et de mode à Paris.
Donc il y a une sélection à l'entrée?
Très grosse sélection, très grosse sélection. Il y a environ 1% des élèves qui sont acceptés.
Comment vous avez fait pour être accepté alors?
J'ai beaucoup travaillé.
Ouais, déjà, quand vous étiez au bac, c'est ça. Vous faites un dossier, en fait, des stages.
Un portfolio, en fait. Un portfolio, et puis qui s'accompagne aussi avec un bulletin de notes qui doit être pas mauvais, quoi.
À la hauteur, tout à fait.
Mais voilà, du coup, arrivé à Dupéré à Paris, et c'est une école où moi, j'avais commencé dans une formation qui s'appelait Luxe, Savoir-Faire et Innovation, qui... essayer de mixer les savoir-faire textiles, donc la broderie, le tissage, les ennoblissements textiles, avec une approche du vêtement. C'était comme ça qu'on nous l'avait vendu, on va dire. Et c'est vrai qu'au final, c'était une formation qui était... Donc moi, j'avais très envie de mixer ça par le costume breton, par cet attrait-là.
Et c'était quand même du vêtement. Enfin, l'école du Péré, c'est uniquement sur le stylisme.
Non.
Est-ce que ça peut être aussi la maroquinerie ou d'autres...
Alors, en mode, il y a trois formations différentes. Une qui est vraiment stylisme, une qui est plus métier d'art et une qui est plus les métiers de l'image de la mode. Mais autre que...
La photo, par exemple, quoi.
Voilà, la photo, ouais. La vidéo, etc. Mais il y a aussi d'autres formations, que ce soit du graphisme, du textile, de la céramique. Il y a d'autres formations dans cette école. C'est vraiment une école de design, en fait.
D'accord. Et donc, la filière que vous aviez... Enfin, l'option, je ne sais pas comment on dit, que vous aviez choisie, c'était quand même lié au tissu. Enfin,
c'était mode et savoir-faire, en gros.
D'accord. Mais luxe, évidemment.
Mais luxe, exactement. Broderie.
Et alors, la broderie, bah, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. L'autre styliste finistérien très connu, c'est Pascal Jaouen. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler un petit peu chez lui, avec
pas
lui
du tout. Pas du tout. Je ne le connais pas encore. Je le connais pas encore.
Et alors, cette école Dupéré, ça dure combien de temps? Comment ça se passe, les
études? Alors, Dupéré, c'est la première étape, c'est une licence, donc 3 ans. Mais j'ai été assez... En fait, je m'ennuie un peu dans cette école-là.
Il n'y avait pas assez de pratique ?
Pas assez de pratique, en particulier pas assez de pratique du vêtement. Un peu trop de savoir-faire, un peu trop de broderie. Et moi, j'avais quand même envie de faire du vêtement, par l'architecture aussi, de construire, de structurer, etc. autour du corps, ou de laisser tomber le tissu. Et du coup, il y a le Covid.
Ah ouais, bah oui, ça, ouais.
Évidemment. Ouais, ouais,
il faut faire avec.
Mais du coup, à travers cette période de réflexion qui était le Covid, puis un voyage que j'ai fait en Suède, j'ai décidé d'arrêter Dupéré durant le Covid.
Ah oui, donc vous n'avez pas terminé.
J'ai fait qu'un an à Dupéré. Et de partir pour une autre école, qui est une école bruxelloise, qui s'appelle La Cambre. Donc ça devait être en septembre 2020.
Et alors pareil, sélection, enfin c'est une école peut-être privée là pour le coup.
Non,
non.
Pareil. Dupéré et La Cambre, c'est peut-être les deux seules écoles européennes, on va dire d'un bon niveau de mode, qui sont publiques, donc gratuites.
Et pareil, sélection. Alors j'imagine.
Grosse sélection, concours d'une semaine.
Ah, concours
Bruxelles.
Carrément.
Concours,
okay.
Ouais. Donc en gros, pendant une semaine, t'as différentes épreuves et tous les deux jours, il y en a. Ils appellent une liste qui s'en va, quoi, en gros.
Donc, épreuves pratiques, c'est ça ou...
Beaucoup d'épreuves plutôt de référence, de culture générale, un petit peu de stylisme, donc faire de la proposition de silhouette. En fait, ce qu'ils cherchent, je pense, à savoir, c'est quel est notre style, quel est notre univers, qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait, comme vêtements. Parce que cette école à Bruxelles, elle est quand même, qui s'appelle La Cambre, elle a vraiment elle s'inscrit dans une histoire de la mode belge qui est vraiment très référencée, avec des figures très marquantes comme Martin Margiela, Dries Van Noten, Raf Simons, des personnalités comme ça qui ont vraiment une approche très conceptuelle de la mode qui n'est pas du tout l'approche française. Et donc, ils cherchent à savoir si les élèves sont prêts un peu à se plonger dans cet univers qui est la mode belge.
Et quand on pense à Bruxelles, on pense à Art Nouveau notamment. Enfin, est-ce que c'est vraiment lié ? Est-ce que dans la mode, on retrouve cette tendance-là ou pas spécialement ? Enfin, là, je pensais à l'architecture, bien sûr, mais...
Ouais. Eh bien, je pense... Alors, j'aurais pas fait... C'est plutôt autour des surréalistes. Je pense que c'est intéressant d'aller chercher. En fait, ce que je pense dans l'esthétique et dans l'approche belge créative, c'est vraiment une liberté, quoi.
Ah ouais.
Nous, en France, on dit souvent qu'on est un peu tributaire d'une certaine histoire du vêtement très construite par Christian Dior, par Chanel, par Cristobal Balenciaga, ce genre de personnages qui avaient vraiment une manière de construire le vêtement très précise et très dans la tradition, on va dire.
Un peu comme le jardin à la française, quoi.
Exactement.
On est coincé.
Exactement, exactement. Et les Belges et les Japonais aussi ont mis un peu des coups de pied dans cette fourmilière.
Ah, les Japonais aussi, pourtant, ils ont parfois des principes artistiques très rigides.
Exactement,
pense,
mais quand même une culture, on va dire que l'esthétique belge et l'esthétique japonaise ont monté un petit peu ensemble en termes de mode, et pour mettre un gros coup de pied dans la fourmilière qui était le style à la française, on va dire, et donc un peu plus dans le concept et dans la déconstruction, un peu comme les surréalistes belges, comme Magritte, qui se sont octroyés de grandes libertés, quoi. Ils sont un peu fous, les Belges, c'est ça qui est chouette.
Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on les aime.
Exactement.
Et dès que cette école de La Cambre, elle dure combien de temps ? Elle vous convient, déjà ?
Alors, c'est rigolo parce que je suis pas très, je suis pas très école, mais elle me convient énormément parce que je partais de Dupéré parce que je m'ennuie un peu. Là, j'arrive dans une école où j'apprends énormément de choses. Elle convient complètement à mes attentes, à ma volonté de me mettre un petit peu au défi. Mais finalement, je fais que 2 ans parce que c'est une école aussi qui est très, très, très éprouvante, où on dort pas beaucoup. Je pense que les grandes écoles de mode, c'est quand même vraiment un univers qui peut être un peu violent dans certains aspects. Et donc, au bout de la deuxième année, avec des petits conflits, on va dire, avec mes professeurs, je décide de faire une année de pause, de stage, du coup. Et c'est là que je remonte à Paris pour la deuxième fois. Et qu'au final, je ne reviendrai jamais à Bruxelles.
Ah ouais. En fait, on comprend, Jules Lemaitre, que vous êtes une forte personnalité. C'est peut-être ça qu'il vous faut. On va voir ça plus tard. Mais quand vous avez travaillé, donc vous avez commencé par travailler pour l'OEV, c'est ça ?
Ouais.
C'est une filiale de LVMH. Hein ?
Oui, c'est une des grandes maisons de LVMH, comme Dior. Voilà.
Donc, combien de temps ? Qu'est-ce que vous y avez fait ?
Alors, au début, c'était vraiment un stage. J'ai été pris dans cette maison... grâce à quelqu'un qui a cru en moi à ce moment-là. Je sortais tout juste de mon année à la Cambre. Deux jours plus tard, j'arrivais à l'OEV, dans les ateliers de la maison l'OEV, donc plutôt pratique. Et pour un stage de 2 mois, et au final, j'en ferai 6.
Ah oui, donc là, non seulement vous vous plaisiez, mais vous plaisiez.
Ouais. Puis, c'était... Souvent, on se dit que... Je pense qu'on se fait beaucoup d'idées du milieu de la mode et des grandes maisons, etc., en se disant que c'est un univers qui peut être un peu trouble, un peu violent, un peu dans le glamour, etc. Et en fait, après les écoles de mode, le milieu du travail, en tout cas cette maison-là qui était l'OEV, m'a semblé hyper douce, quoi, en fait.
Bienveillante.
Bienveillante, ouais.
Oui, mais vous êtes peut-être bien tombée aussi, ça doit dépendre.
Je pense que je suis bien tombée, mais... C'est vrai que cette maison-là, c'est vraiment une des maisons qui a le propos artistique le plus intéressant, je trouve, en tout cas pour moi aujourd'hui. Et donc, on sentait vraiment cette espèce de communion de tout le monde, de tous les protagonistes, que ce soit les designers, que ce soit l'atelier, etc., à réussir un projet innovant, valorisant. Enfin, il y avait un peu cette espèce de cohésion de groupe pour un projet qui nous surpasse.
Vraiment collectif, quoi.
Super collectif.
Et vous, vos tâches consistaient en quoi ?
J'ai toujours eu, c'est ça un peu aussi. J'ai toujours eu un profil entre l'atelier et le design. Donc chez l'OEV, j'étais vraiment en atelier.
Donc, vous découpiez, quoi.
J'aidais à faire les patronages, les toiles, à couper les tissus, à coudre les pièces qui allaient défiler après, quoi.
Pas de broderie cette fois, non ?
Pas de broderie. Non, mais j'adore la broderie. Hein, mais...
Ça peut détendre.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est pas votre passion, quoi. Et donc ça vous plaît, mais il faut bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Donc après, vous êtes allé où, alors ?
Eh bien, ce stage-là s'est arrêté, je pense, en octobre ou en novembre, quelque chose comme ça. Et ça faisait depuis longtemps quand même que je parlais moi-même de l'envie de monter une marque, de l'envie d'avoir un projet qui m'est personnel. Et j'avais des copains à cette époque-là qui étaient aussi en stage à Paris, qui étaient dans des plus petites maisons. Et ils m'avaient conseillé d'aller voir ce que c'était un stage dans une petite maison, dans une marque émergente, de la Fashion Week parisienne, avec beaucoup moins de moyens, par exemple, que ceux qu'on avait chez l'OEV. Et j'avais des copines qui étaient chez un designer qui s'appelle Alphonse Maître-Pierre, qui m'avait dit que ce monsieur était extraordinaire, qu'il était adorable, et j'aimais bien ce qu'il faisait. Et elles m'ont conseillé de tenter un stage chez Maître-Pierre, ce que j'ai fait, ce que j'ai eu. Et ce qui devait être un stage de 2 mois, c'est fini en, une collaboration de plus de 2 ans, quoi.
Ah ouais. Donc là, j'imagine que vous avez encore franchi un cap dans les missions, les tâches que vous faisiez.
C'est pas la même chose, en fait. Comme c'est une petite marque, qu'on est... factuellement, on était 5 maximum
c'est
diriger
quoi,
la maison.
Marque, ouais. D'accord, 5.
Voilà, 5.
Un
5
peu comme la radio, comme Transistor.
Voilà, exactement.
C'est de l'artisanat.
C'est de l'artisanat. Donc, à l'inverse de l'OEV, par exemple, où vous êtes 200 dans une maison.
Voilà. Ah oui, d'accord.
En fait, c'est quelque chose qui m'a plu énormément, c'est d'être hyper multitâche. C'est là que j'ai découvert vraiment que ce qui faisait peur à beaucoup de gens, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le fait de faire des vêtements, de devoir les vendre, d'aller en showroom, de travailler avec la presse, etc. Moi, c'est ça qui me plaisait, quoi, en fait.
Mais oui, bien sûr.
Ouais.
Je comprends.
Et qu'en fait, voilà, ce que j'ai appris là-bas, c'était vraiment déjà qu'effectivement, essayer de monter un projet à moi, ça me tenait à cœur vraiment, que j'ai vu ce que c'était et que ça me plaisait. Et en plus de ça, que je pouvais pas rester toute ma vie dans un studio pour juste dessiner des vêtements, quoi.
Et ces petites maisons, elles arrivent à vivre? Parce qu'il y a quand même l'enjeu économique.
Difficilement.
Hein. Bah ouais, c'est ça.
Ouais, bah en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même... Enfin, il y a la crise. Et bien qu'on pourrait croire l'inverse, la crise touche aussi le milieu du luxe beaucoup.
Beaucoup
en ce moment. Et les premiers à être touchés, c'est évidemment les petites marques indépendantes qui n'ont pas la force de résistance des grands groupes type LVMH ou Kering, quoi. Voilà. Et donc, non, c'est compliqué. Financièrement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est très difficile de monter une marque. Il faut beaucoup d'argent à la base. Et puis, il faut vraiment avoir du temps devant soi pour réussir à vendre, pour réussir à avoir des projets qui permettent de faire vivre la maison. Mais c'est très compliqué.
Le temps, vous l'avez pris quand même. Enfin, quand vous avez commencé à créer votre collection, donc il y a un an, vous étiez encore chez Maître Pierre ou...
Exactement.
D'accord. Ouais.
Les premières pièces, j'ai commencé à les faire chez Maître Pierre. Et puis, dans tous les cas, c'est une maison avec laquelle je reste très proche. Et voilà, ouais, j'étais encore chez Maître Pierre. Ouais.
Et alors, comment est-ce que vous définiriez votre style?
En fait, cette collection et le projet que j'ai envie de mener, il part vraiment du constat que l'on fait, je pense, nombreux d'entre nous, créatifs bretons, qu'on a grandi sur vraiment un trésor esthétique, on va dire, en Bretagne, que ce soit par ses paysages, par le costume, par l'architecture. Enfin, il y a vraiment une richesse, voilà, une richesse incroyable autour de nous.
De la beauté, en tout cas.
De la beauté, voilà. Et que... moi, j'étais parfois un peu frustré de me dire que cette beauté reposait souvent sur une interprétation légèrement datée.
Un peu figée, peut-être.
Un peu figée, complètement. Bah, en fait, on parle d'esthétique bretonne. Pour nous, c'est quelque chose d'assez vieillot, quoi, en fait. Et parfois, je trouve, et qu'on a envie de... J'avais envie de... Et voilà, en fait, c'est ça, c'est que j'avais vu dans les maisons à Paris comment réinterpréter un peu les classiques, les archétypes, la tradition, les archives, pour les emmener dans un univers complètement moderne. J'ai vu des choses incroyables, en particulier chez Loewe, vraiment de complètement téléporter une pièce ancienne dans un univers complètement contemporain, par aussi le marketing, par la communication, par l'image. Et j'avais envie de faire la même chose avec ce qui me tenait à cœur, donc mes racines, la Bretagne, voilà.
Donc en fait, pour essayer de donner une image aux gens, à l'auditoire qui ne voit, qui n'a pas l'image, vous prenez des motifs, on va dire, bon, du costume breton, par exemple, enfin pas seulement d'ailleurs, hein, mais vous ajoutez beaucoup de volume, enfin moi j'ai l'impression que... Vous sculptez, quoi.
Au-delà, bah, je pense que le côté volume, le côté recherche expérimentale autour du vêtement, ça c'est vraiment quelque chose qui est tributaire de mes études en Belgique, de l'esthétique belge. Mais en fait, c'est vraiment ça. J'aime bien dire que je travaille avec du collage, c'est-à-dire que je prends ce qu'on appelle un code, donc un détail, par exemple, du costume breton ou du vestiaire du marin, etc. Et après, j'essaye de le retravailler, de l'imaginer, de le mettre hors de son contexte. Donc, par exemple, je prends un exemple, les jupes un peu bouffantes, à fronces, du costume rousic, du costume de la femme.
De chez nous.
J'ai cette pièce-là entre les mains, je la regarde, et j'essaye de la placer sur un autre endroit du corps, par exemple. Donc, par exemple, une manche. Je me dis que pour rendre ça contemporain, il faudrait la mixer avec une pièce de notre vestiaire moderne, en l'occurrence un bomber, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup, un bomber d'aviateur. Et donc je prends cette manche inspirée de la jupe rousique sur un bomber d'aviateur dans une matière en soie du costume rousique, et voilà quoi.
Ah ouais,
c'est
vraiment ce travail de collage.
Ouais.
Et en termes de couleurs. Alors, j'ai pas retrouvé justement des couleurs tellement traditionnelles. Là, vous êtes affranchi, on va dire, peut-être des couleurs traditionnelles du costume breton, non ?
Bah déjà, il y avait quand même beaucoup de noir et blanc. Il y a beaucoup de noir et blanc. Je pense que c'est quand même c'est marquant. Enfin, que ce soit les couleurs de la coiffe, le costume d'homme qui est vraiment noir. Il y a cette certaine austérité qui me plaît bien, en fait, aussi dans la culture bretonne.
Vous en avez gardé du noir et blanc, ça c'est sûr. Ouais. Mais j'ai vu pas mal de rouges, des rouges assez vifs ou du bleu,
ouais.
Même qui est même pas le glasique, on va dire quoi.
Bah il y a vraiment, par exemple, il y a un grand manteau bleu qui est vraiment inspiré du cabic, où j'ai vraiment repris la même matière que le cabic breton, le minor, on va dire. Et après, ce rouge-là, en fait, ce rouge-là, il est un peu... Je pense qu'il n'est pas littéral. Il fait écho un peu à... On parle là d'un bomber, c'est d'un pantalon qui sont dans un velours ancien, rouge, pétant. Et il n'est pas littéral dans le costume breton, mais il apparaît un peu dans l'aspect vif des couleurs, du costume bigoudin, du orange, du jaune. Puis il y a aussi... En fait, je ne sais pas, ce rouge, il était hyper présent pour moi. Il y avait un peu aussi cette idée de sortir... Je l'aurais fait, par exemple, en, pareil, en bleu marine. Ça aurait été un peu trop littéral.
Ouais.
En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce rouge, il me paraissait complètement breton en même temps et du coup, beaucoup plus contemporain. Et la manière dont je l'ai travaillé, avec ces lignes aussi un peu blanches de la marinière et de la vareuse du marin. Voilà, c'était vraiment cette idée-là.
Oui, oui, non, mais il est marquant, de toute façon. Enfin, c'est, combien de vêtements vous avez créés dans votre collection ?
Hop, hop. Il y a une dizaine de silhouettes. Il y a une dizaine de silhouettes pour l'instant. Donc, on va dire qu'il y a à peu près il y a une grosse vingtaine de pièces. Quoi.
Et en termes de matière, il y a, par exemple, je pense à celui ou ceux d'ailleurs qui sont dorés. C'est la soie, c'est ça ?
Oui.
Ça, il n'y a pas de soie dans le costume breton, non ?
Enfin, il y en a très peu, ouais. très peu. Il y en avait un peu plus à l'époque quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qui... En fait, c'est aussi ça, c'est l'attachement aux belles matières, aux matières nobles, aux matières naturelles.
Ouais.
Et aujourd'hui, effectivement, voir que, par exemple, dans les nouvelles reconstitutions du costume breton, souvent, on utilise des matières synthétiques.
Ah ouais, du polyester, non, ouais. Quand même pas.
Bah, ou ça peut être démélangé, quoi. Il y a des très beaux polyesters. Hein. C'est possible de trouver des très beaux polyesters, mais c'est vrai que, bon... On veut un satiné, on prend de la soie, quoi, en fait.
Ouais, voilà. Hein, c'est si simple.
Non, mais... C'est pas si simple, mais je pense que c'est important de... Sur un projet comme ça, qui ne se veut pas être quelque chose de très commercial, de toute manière, autant essayer de faire les choses bien, quoi.
Et pourquoi Allan des Venecs ? Alors, vous avez donc présenté votre collection le 26 juillet dernier à Allan des Venecs. Pourquoi Allan des Venecs ? Expliquez-nous.
D'abord parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette collection en Bretagne, chez mes parents, on va dire dans un quartier un peu éloigné du Fou. Et l'abbaye de Allan des Venecs et Allan des Venecs, je la vois de là où je travaille, de mon bureau, par la fenêtre, tous les jours, où je travaille chez moi. Et puis, il y avait aussi cette histoire de la presqu'île de Crozon, qui est vraiment un paysage qui est très marquant pour moi, dans ma jeunesse, etc. De Allan des Venecs, comme ce village à moitié posé sur l'eau, entre la mer, la terre, la presqu'île, à la confluence de l'Aulne, de l'océan. Et puis, historiquement, c'est quand même un peu la source de la Bretagne. Enfin, c'est la première abbaye bretonne. C'est un lieu qui est absolument magique parce que, pareil, posé sur l'eau avec une perspective de fou. Et il y avait vraiment... Voilà, il y a une forme un peu de mysticisme, d'énergie auquel je suis très sensible et qui me plaît énormément dans ce lieu-là. Et en fait, c'est vraiment en soirée, en délirant un peu avec certains de mes collaborateurs sur le projet, on réfléchissait où est-ce qu'on avait envie de présenter la collection en Bretagne, parce que c'était important de d'abord la présenter en Bretagne pour... Voilà, desservir ce message, dire merci. Et ben, Allan des Venecs s'est un peu présenté comme une évidence. Et au culot, on est allé voir Allan des Venecs et ils ont dit oui.
Oui, c'est vrai qu'on les connaît bien, l'ancienne abbaye, l'équipe de l'ancienne abbaye. Ils sont super. Vraiment super.
Ouais.
Et Brézodyssée vous a aidé un peu aussi financièrement, enfin, ou...
Alors, Brézodyssée, pour parler d'eux, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout, ce village qui est hyper loin de tout, il réunit quand même des énergies qui sont très fortes et des initiatives passées et présentes hyper intéressantes. Et Brézodyssée, on va dire qu'ils ont été un peu... ils ont suivi le projet dans l'accompagnement, ils ont essayé de me faire présenter des personnes. Ils sont plus aujourd'hui dans une démarche de tutorat un petit peu, on va dire. Sur mon projet et puis voilà, ils sont très investis dans le rayonnement de la culture bretonne en général, donc je pense qu'on va être amené à retravailler ensemble, j'espère. Mais et voilà, et en fait on a, sur la soirée du 26, on a fait à la fois la présentation de la collection dans l'ancienne abbaye et ensuite pour les invités. Et il y avait un peu un cocktail buffet après les Odyssées, de rencontres, d'échanges justement autour de la culture, etc.
Et du réseau. Et parce que vous avez besoin, enfin, si vous, Jules Lemaitre, vous voulez lancer votre marque, il vous faudra de l'argent. Donc ouais. C'est ça, vous cherchez en fait des mécènes, on peut dire ça comme ça, enfin...
C'est ça qui était un peu l'objectif du 26 juillet aussi, de la soirée de présentation, c'était de réunir à la fois les identités bretonnes et les identités parisiennes autour de ce projet-là, pour essayer de le faire émerger, d'en amener effectivement des financements, des partenariats, etc. Et il y a eu énormément de retombées, en particulier... Enfin, et en Bretagne et à Paris. Normalement, la collection sera présentée durant la Fashion Week à Paris en septembre. Donc voilà, c'est des choses qui sont incroyables. C'est très très rare qu'un jeune designer comme moi arrive tout de suite à présenter ça à Paris, surtout en commençant en Bretagne, à Landévennec. Mais oui, effectivement, donc beaucoup de sollicitations pour effectivement continuer ce projet. Des gens qui se mobilisent pour qu'il existe. Mais aujourd'hui, on a besoin de financement, ça c'est sûr. Et pour l'instant, on n'en a pas tellement.
Ouais, donc si vous vouliez lancer votre marque, qu'est-ce qu'il vous faudrait concrètement? C'est ça, quoi? C'est quelqu'un qui investit chez vous? Enfin, comment
ça passe? Ouais. Oui. C'est ce que je suis en train de préparer en ce moment, un petit peu, en essayant de me remettre un peu de mes émotions. Mais oui, c'est ça. Quelqu'un qui soutient le projet, factuellement, potentiellement une banque aussi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Parce que sinon,
vous pourriez aussi, j'imagine, vous faire recruter en tant que designer par une maison. Ça vous plairait ou vous préféreriez être indépendant?
Je sais que Alors... Si aujourd'hui, enfin, je suis encore très jeune, j'ai présenté qu'une seule collection, je ne vais pas être nommé à la tête d'une grande maison de couture demain. Ça, c'est sûr, il va falloir travailler encore un peu. Mais effectivement, aujourd'hui, factuellement, je pense que l'option la plus simple, c'est effectivement de reprendre un peu de travail salarié dans une maison qui va me payer correctement et de revoir effectivement... de préparer doucement toute cette stratégie pour monter cette marque-là, en ayant toutes les forces à disposition et ne pas perdre de temps à faire des projets qui ne verront pas le jour parce qu'ils ne sont pas financés, quoi.
Eh bien, Jules Lemaitre, on va vous souhaiter réussite, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis, on suivra ça de très près. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Et c'est la fin de ce LEM que vous pourrez réécouter sur le site internet de Transistor. Merci de votre écoute.